Blanche, large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Eliane Monnier, bonjour.
Mais bonjour.
Vous êtes artiste, peintre, aquarelliste, carnetiste. J'ai découvert ce mot grâce à vous. Je connaissais l'idée du carnet de voyage, du carnet d'estampes, du carnet d'aquarelle. C'est votre monde. Je ne savais pas qu'il y avait un mot, carnetiste. On va en parler. Vous publiez cet automne un magnifique livre, Carnet de balade en Lavaux. C'est Slatkin qui publie ça. On est au cœur du Lavaux. De Lavaux, oh mon Dieu, ça y est.
De Lavaux,
je m'étais préparé à pas dire du Lavaux et pouf, ça sort à la première intervention. Malheureux. Au cœur de Lavaux, à Saint-Symphorin, c'est quoi? C'est le bijou de Lavaux? C'est le bijou dans un bijou?
En tout cas, c'est sûr que c'est un bijou où on a posé nos valises pendant 10 ans. Et puis voilà, c'est vraiment un lieu qui m'a énormément nourrie, habitée, enrichie. Et je suis vraiment enchantée de retrouver ce panorama avec un temps ensoleillé ce matin.
Bon, il y a une notion chez vous qui m'interpelle. Vous avez eu la chance d'habiter Saint-Symphorin et vous venez de quitter Saint-Symphorin. Ça veut dire qu'on quitte Saint-Symphorin? Je pensais que c'était impossible.
Alors voilà, nous sommes un peu des oiseaux migrateurs, c'est sûr. Je crois que je suis au 28e déménagement. Donc, on est resté en fait le plus longtemps ici, c'est-à-dire 10 années. Et puis là,
oui, parce que si c'est 10 ans à chaque fois, ça fait un très grand âge. Hein.
Non, en effet. Non, donc là, c'était vraiment la plus longue période où on s'est sédentarisé pendant 10 ans. Et puis là, on vient de quitter. Ça fait 3 nuits qu'on dort à la Vallée de Joux.
C'est marrant parce que on s'est donné rendez-vous dans le cœur du village. Là, puis on est monté un petit peu. S'il y a une photo sur les réseaux sociaux qui a cette émission que je conseille, c'est celle d'aujourd'hui parce qu'elle sera magnifique, le temps est sublime, les vignes sont jaunes, le lac est complètement serein. Mais enfin, on s'est donné rendez-vous au cœur du village, il y avait des gens évidemment que vous connaissez, vous avez habité ici, et puis leur réaction c'était « Ah, déjà oui. !» Parce que c'est tout frais, hein. vous venez de quitter.
Oui, alors c'est ça, il y a trois jours, les camions justement de déménagement des nouveaux habitants de la cure de Saint-Symphorin étaient là devant la maison.
J'ai vu que vous avez croisé les droits et vous leur avez jeté un sort en passant.
En tout cas, on espère que les prochains auront tant de plaisir que nous avons eu ici dans ces murs. Et puis, avec des. Justement, c'est vrai qu'on a créé beaucoup de liens ici au village. Et j'espère revenir le plus souvent possible.
Bon, il y a eu aussi une activité d'école, hein, d'école de peinture, d'atelier, l'atelier du baobab. Il vous suit, le baobab?
Le baobab me suit, exactement. Donc c'est vrai que je peux dire que je fête également les 10 ans de l'atelier de Baobab cette année-là. En fait, je peux dire que mon activité d'enseignement, de cours a vraiment démarré dans les murs de la cure Saint-Symphorin. Et ce qui fait que c'est vrai que ça m'a permis de créer énormément de réseautage. Beaucoup de personnes sont venues, ont participé à des cours en atelier, mais aussi en extérieur parce que j'ai énormément profité aussi du cadre de Lavaux pour organiser des croquis-balades et des stages d'une semaine dans la région de Lavaux. Donc voilà, c'est vraiment, encore une fois, un lieu qui m'a énormément nourrie.
Moi, je me suis dit, voilà, une artiste peintre qui a fait un carnet, voilà, dans un lieu qu'elle aime. Et puis, alors, en m'intéressant à vous, j'ai vu que c'était vraiment une spécialité, hein, le carnet de voyage. Alors, il est connu dans la littérature, les grands carnets de voyage du 19e siècle. Il est connu aussi probablement dans la peinture. C'est un monde qui m'est un peu plus étranger. Mais vous en avez fait une vraie spécialité, hein, la balade, où que ce soit dans le monde, avec ce souci dans tirer quelque chose en peinture.
Exactement, c'est vrai. En fait, on est héritier des peintres voyageurs, des grands explorateurs, parce que c'est vrai qu'historiquement, les grands explorateurs embarquaient toujours les dessinateurs pour prendre des notes.
Moi, j'ai pensé, alors c'est pas du tout le même style de dessin et de peinture, vous êtes dans l'aquarelle, c'était pas leur cas, mais j'ai pensé à l'expédition de Bonaparte en Égypte, hein, avec ces planches incroyables qui nous sont revenues, parce qu'il n'y avait pas de photographe, donc c'était les dessinateurs qui allaient documenter, en somme, voilà. ce qu'on y découvrait.
Et puis on notait tout, on notait les coutumes, toute la faune, la flore était documentée par le dessin. Donc, disons en Suisse, je pense que c'est un art qui est assez peu connu encore, quoique ça commence à se développer. Il y a aussi les urban sketchers qui sont un peu un pendant du carnet de voyage. Mais en France, par contre, c'est quelque chose qui se développe. Il y a des festivals du carnet de voyage un peu
beaucoup
dans toute la France.
Beaucoup lié à la mer, hein, à la Bretagne.
Beaucoup au sud, ouais. Mais ça se développe un peu partout sur le territoire. Et puis, en fait, en Suisse, on a créé justement, je fais partie des membres du comité.
Vous co-présidez, madame.
Plus maintenant.
Ah, plus maintenant.
Là, j'ai passé.
Faut mettre à jour votre site. Hein.
J'ai passé la main l'année dernière, mais justement, une association.
Les carnetistes helvétiques.
Voilà, hein. C'est ça. Voilà. Avec l'idée de créer un festival du carnet de voyage en Suisse. Donc là, c'est la troisième édition vient d'avoir lieu début octobre. C'est à Orbe, et la petite ville d'Orbe, donc dans le nord vaudois. C'est proposé d'être la capitale des carnetistes helvétiques. Donc ce n'est pas rien.
vous avez fait une école d'art. Comment vous êtes entré dans cette expression artistique-là?
Alors non, je n'ai pas fait d'école d'art. En fait, j'ai une première profession, je suis infirmière. Et après, en fait, je dois dire que j'ai toujours beaucoup créé. C'est grâce à ma maman qui était une très bonne dessinatrice, qui aimait bricoler. Elle nous a toujours beaucoup encouragés à bricoler. Et puis, nous sommes partis quelques années en Afrique et c'est là que j'ai en fait développé la peinture, je me suis beaucoup intéressée. J'ai rencontré des peintres qui m'ont aussi transmis beaucoup de savoir-faire. Et voilà, petit à petit, en fait, c'est devenu, ça a pris de plus en plus de place dans ma vie jusqu'à il y a 10 ans, justement, j'ai choisi de devenir, de prendre le statut d'indépendante, comme artiste indépendante.
Alors l'Afrique, c'était l'Afrique du Sud, hein, enfin le sud du continent, le Mozambique particulièrement, mais aussi l'Afrique du Sud, je crois.
Oui, exactement, Afrique du Sud, Mozambique.
Vous aimez Lavaux, vous aimez l'Afrique du Sud, j'ai vu la Toscane, j'ai vu les Açores. Vous allez dans des coins où la lumière vous aide, hein.
Alors, tout à fait. La vallée de Joux, je pense que c'est aussi un coin où les jeux de lumière sont.
Bon, finalement, si on sait la voir, c'est partout. Je pense qu'à Amsterdam, il y a aussi des belles lumières, même si c'est un peu gris, même si.
Mais c'est vrai, c'est tout à fait. Et je pense que le.
Je dis Amsterdam, tout respect conservé pour Amsterdam et Van Gogh, évidemment. Hein, mais
ça fait partie d'un projet prochain, donc je ne savais pas si.
C'est vrai que le gris ne saute pas aux yeux chez vous, quoi. Hein,
non, c'est vrai, ouais. C'est vrai. J'aime beaucoup les couleurs et je pense. En fait, j'ai commencé vraiment à peindre en Afrique, donc les couleurs vives, chaudes, viennent en fait, m'ont suivi. C'est très intéressant parce qu'au niveau des couleurs, je ne peignais jamais de vert en fait les premières années et cette couleur s'est introduite depuis qu'on a, en fait on est revenu en Suisse.
Ah oui, bah oui, c'est une couleur
donc,
dominante.
Voilà,
ici,
comme quoi on
même
est.
Si c'est pas vraiment le cas aujourd'hui, évidemment, avec le jaune des feuilles des vignes dans ce cœur de l'automne de Lavaux. J'ai le mot éloge, mais c'est presque un manifeste à la lenteur, votre carnet de voyage. On est dans un temps de rapidité, dans un temps où on dégaine, c'est ce que je viens de faire d'ailleurs avant qu'on commence, son téléphone pour prendre une photo qu'on va sûrement oublier. Le dessin, ça demande de se poser, hein, ça impose de se poser.
Alors, exactement, c'est vraiment l'idée en fait de se balader, de prendre le temps, de se connecter au lieu où on se trouve en fait. Et en fait, quand on se pose, on voit qu'on n'a pas besoin d'aller très loin. Tout devient motif à dessin, à réflexion. On entre en fait petit à petit dans l'espace qui nous habite en posant le regard à gauche, à droite et tout devient sujet. Donc c'est vraiment une merveille et un cadeau d'avoir
tout. Tout devient sujet parce que quand on prend un petit peu de temps, les sujets surgissent qu'on ne voit pas quand on est dans notre rapidité du siècle.
Exactement. Et on a aussi des visites, des fois incongrues, des petites bêtes qui viennent dans le carnet de voyage. C'est pour ça aussi que j'ai souhaité rendre compte un peu de la faune locale. Il y a beaucoup d'oiseaux, j'adore les oiseaux. Mais pas que, il y a aussi des fois des salamandres.
On y reviendra dans la deuxième partie de cette émission, on ira un peu plus dans le détail. Mais j'aimerais savoir comment vous travaillez. Vous sortez avec vos couleurs ou avec une petite partie partie de vos couleurs, vous faites du croquis en noir et blanc qui ensuite va être travaillé en atelier. Comment ça marche?
Alors,
les recettes de cuisine.
Ça dépend un peu du temps justement à disposition, mais c'est vrai que j'ai toujours un, voire deux, trois carnets dans mon sac, et puis que je vais sortir le carnet au trait noir uniquement si j'ai peu de temps. Et puis quand le temps me laisse un peu plus d'espace, eh bien j'ai souvent une boîte ou des crayons de couleur aquarellables dans mes poches.
Les crayons aquarellables, il faut expliquer ça.
Crayons aquarellables, c'est-à-dire ce sont des crayons
dont on peut mouiller le trait. Ensuite,
voilà, avec un pinceau réservoir. Donc ça,
c'est dans un deuxième temps, c'est au retour à la maison. Ça.
Sur place. C'est vraiment quelque chose super pratique qui se met dans un petit sac à main très discret. Donc on l'a toujours à disposition.
Donc,
Voilà, il y a l'évocation aussi bien par le dessin, la peinture. Des fois, les notes de couleur se mettent simplement avec un ou deux petits mots ou des codes couleurs si j'ai pas le temps de les poser. Et puis souvent il y a une ou deux petites inscriptions au niveau du texte aussi.
Alors les textes, on va y venir. J'ai vu qu'il y avait un chien, il y a Samba.
Alors il y a Samba qui
vous accompagne parfois, j'imagine, pas toujours.
Qui m'a accompagné toutes ces années, mais qu'on vient d'endormir,
de perdre,
en fait, voilà, on vient de...
Bon, en tout cas, elle est présente dès le début du livre, hein. Le souvenir de ce chien qui
C'était
vous a accompagné.
C'était vraiment la mascotte de l'atelier.
Ça m'a touché un peu,
balades.
Parce que ma mascotte à moi chouigne à côté pour avoir ses croquettes, alors qu'il devrait contempler le paysage et la chance d'avoir. L'animal de compagnie, alors moi j'ai marre réponse à moi, parce qu'évidemment je suis en symbiose avec ce petit chien, mais il permet aussi la lenteur, il permet aussi une certaine contemplation, une certaine proximité avec la nature après tout.
Alors déjà il nous entraîne à sortir facilement,
l'obligation d'y aller,
voilà,
quoi, hein,
quotidiennement, ouais, ouais. Et puis c'est sûr que déjà ça peut aussi créer du contact, hein, avec les personnes qu'on croise sur les chemins. Il y a souvent quelque chose qui se passe par l'intermédiaire de nos compagnons de vie. Et puis c'est vrai que elle était tout le temps avec moi à marcher, à crapahuter tous les chemins de Lavaux. Alors elle n'a pas fait le déménagement, mais je pense que voilà, elle va rester, attachée.
L'image de cette portion de vie que vous avez beaucoup aimée dans cette région du monde. On va parler un peu plus en détail de ce livre dans la deuxième partie de cette émission, Carnet de balade en Lavaux, édition Slatkin. On se retrouve dans un instant.
Plan large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Liane Meunier, on se retrouve pour la deuxième partie de cette émission. On est toujours sur ce banc là, avec un point de vue absolument spectaculaire, un point de vue UNESCO. Hein.
Exactement.
Ça a une signification pour vous.
Patrimoine de l'UNESCO.
Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, ce mot UNESCO qu'on a collé à cette région?
Alors, c'est vrai que, en habitant la région, mais aussi en travaillant en fait l'édition de ce carnet, je me suis beaucoup documentée sur l'histoire. Et puis, moi, je trouve ça remarquable, le paysage et l'héritage, en fait, qu'on a de ces premiers défricheurs qui ont travaillé dans des conditions hallucinantes pour créer ces espaliers, pour poser le vignoble.
Sur ces escarpements.
Voilà.
Mais d'ailleurs, c'est quelque chose, alors de façon tout à fait douce et diaphane dans votre livre, il y a le rapport entre l'homme et la nature. Hein, vous parlez, on les voit dans vos dessins, les murs de vigne, les vignerons. Il n'y a pas seulement des animaux et des paysages, il y a des humains dans ce carnet. Et on sait que, voilà, il y a parfois eu une relation un peu tendue entre l'idée de la protection totale de ce site à travers l'UNESCO et la vie rude de la terre, ses exigences et ses besoins de développement. Vous avez l'impression que c'est apaisé aujourd'hui?
Alors, je ne sais pas si c'est totalement apaisé. Je pense que ça demande toujours réflexion. Et puis, c'est sûr qu'il y a toujours une tension jusqu'où va la protection du lieu. Mais je pense, malgré tout, que s'il n'y avait pas eu tout ce travail de protection, certainement que ce serait beaucoup plus...
Des votations avant ça, son labo, etc.
Oui. Certainement que ce serait beaucoup plus construit et on n'aurait pas, disons, ces espaces de vignobles intacts comme c'est le cas aujourd'hui.
Ce qui m'a frappé, c'est l'aspect totalement intemporel de vos dessins. Je crois que la seule notion de modernité que j'ai vue, c'est un paddle sur le lac. Vous n'avez pas dessiné okay. un train, j'ai pas vu une bagnole. Alors peut-être que je l'ai vu, j'ai regardé ça un peu rapidement, mais il y a les bateaux de la CGN dans vos dessins, mais comme ils sont Belle Époque, voilà, ils sont du coup devenus un peu intemporels. C'est vrai qu'on est là, si on a la chance de... Enfin, si on ne voit pas passer un train, on est là comme on était là il y a un siècle ou deux, quoi.
Mais c'est sûr, si on se promène sur les sentiers de la Vaux, en fait, on ne voit pas de mécanisation. Alors, on peut croiser un petit tracteur, mais à l'intérieur des vignes, tout se fait à la main. Et c'est ça qui est juste incroyable, c'est que le travail même de la terre reste avec des moyens très limités. Donc, c'est avec les mains, avec beaucoup d'heures de travail, dans des conditions souvent difficiles, parce que tout est très escarpé. Donc, je trouve intéressant votre remarque parce que je m'en étais pas du tout rendu compte, mais je pense que ça relate aussi le disons que on se promène en Lavaux, on est un petit peu en dehors aussi du temps, ouais. C'est ça.
Ouais. Bah là, on voit passer un train devant nous, on est un peu loin, nous on l'entend, je pense qu'on l'entendra pas à la radio, mais c'est vrai que ça c'est un petit peu le C'est un petit peu gâché, hein. La route, le train, avant le lac, pour cette petite perle de village qu'est Saint-Symphorin, ça fait un peu mal au cœur.
Bon, je ne sais pas si c'est gâché, ça fait partie, disons, il faut vivre avec son temps, ça c'est sûr. Ce qui est très drôle, c'est qu'il y a des communications avec le train et les bateaux. Donc chaque fois qu'un train...
Des tututes.
Oui, se salue. Alors ça, c'est aussi quelque chose assez rigolo à découvrir quand on se promène sur les vignes.
Il y a beaucoup de promenades. Parfois, vous les dessinez d'ailleurs. Enfin, vous les dessinez et puis ensuite, on suit vos dessins sur les itinéraires dessinés aussi, hein, sans notion de kilométrage, de temps parcouru, etc. Vous êtes vraiment dans le contemplatif et dans le lent. Un des premiers dessins, une des premières estampes aquarelles, c'est vue du lac. Vous avez pris le bateau là pour faire des croquis?
Oui, c'est sûr. Alors j'ai plusieurs fois traversé le lac et puis ça c'était d'une prise de vue que j'avais fait à partir d'une photographie parce que c'est le trajet est assez court. Hein. C'est difficile de réaliser une aquarelle dans ce laps de temps. Mais
moi je pensais que vous aviez soudoyé un pêcheur pour qu'il vous amène pendant 2 heures en face du village pour que vous ayez le temps de dessiner, non?
Ça aurait pu.
Ça aurait pu. Oui,
ça n'a pas
bien,
été. Le temps. Mais c'est vrai que c'est balade, en fait, je me suis basée pour réaliser ce livre, en fait, sur des itinéraires de promenade que je proposais pendant mes cours. En fait, on a fait plusieurs dans les croquis balades. Il y avait des boucles qui étaient proposées et j'ai repris en fait cette idée dans le livre qui nous emmène un peu d'est en ouest à découvrir Lavaux.
Il y a les animaux, hein, vous les avez évoqués dans la première partie. Alors, il y a beaucoup d'oiseaux. Il y en a un qui m'a interpellé un peu, c'est la mouette rieuse, parce que vous la dessinez, contrairement à tous les autres, en noir et blanc, avec des indications de couleur pour les quelques endroits, le bec par exemple, hein, où il y a de la couleur. Je me suis dit, pauvre mouette, qui n'a pas eu sa couleur.
Alors non, je pense qu'il y a plusieurs petits croquis en noir et blanc.
On voit une petite flèche vers son bec mais... en disant rouge-orange, voilà, mais enfin, je ne sais plus exactement la couleur.
Mais ça, c'est propre au carnet justement de voyage, quand on n'a pas forcément le temps de prendre, disons, de sortir les couleurs. Ça m'arrive assez souvent de noter les couleurs. Et puis voilà, la mouette est restée en noir et blanc.
Voilà, mais on a presque l'impression que c'est un croquis destiné ensuite, vous indiquez les couleurs pour qu'elles soient posées ensuite. Mais on voit bien que vous posez dans ce livre le travail réel, quoi.
Voilà, ouais.
Il y a des animaux moins faciles à observer, on va dire. Vous l'avez dit, quand on s'arrête quelque part, parfois ils viennent à vous. C'est le cas de renards, hein, qui se trouvent dans votre cour un matin. Il y a aussi les salamandres. Moi, j'ai appris plein de trucs, hein, mais c'est toujours par petites touches comme ça. Notamment que les salamandres n'avaient pas le même nombre de doigts à l'avant et à l'arrière. Enfin, vous les traquez un peu, ces animaux, ou c'est toujours le hasard qui vous les amène?
Alors, c'est une chance, en fait, c'est que le jardin de la cure, justement, là en dessous de nous, je pense que c'est un habitat, un lieu protégé spécialement pour les salamandres. C'est arrivé un jour en rentrant qu'il pleuvait après une longue sécheresse, on en a vu jusqu'à 12 dans la cour. Donc, c'est assez fréquent d'en trouver ici sur les sentiers de Lavaux. Mmh. Et c'est vrai que c'est un animal qui n'est pas facile à voir. Malheureusement, elles se font souvent écraser, donc il faut être très attentif, en particulier le soir, pour regarder où on met les pieds. Mais c'est toujours un petit cadeau de découvrir ces animaux avec des taches jaunes éclatantes.
Votre but, c'est pas de nous faire un cours de naturalisme, hein, c'est pas du tout l'idée. Par contre, vous mettez plein de petites informations comme ça sur des formes très très courtes de texte. On y viendra au texte, mais le canard colvert, par exemple, hein, moi j'ai appris grâce à vous que c'était un macho. Alors j'imagine comme beaucoup d'animaux, il s'occupe pas de ses petits, etc. Mais qui aime se saper pour ses amours, hein. C'est-à-dire moi j'ignorais que le splendide colvert justement qui lui donne son nom, ben n'est là que à certaines saisons.
C'est ça, et en fait, ben, typiquement, moi je l'ai aussi découvert en faisant des recherches, et c'est vraiment propre au carnet de voyage.
Ils sont où c'est mal, quand il n'y a pas les amours. Ben, ils sont là, mais ils ressemblent aux femelles, c'est
exactement,
ça.
Exactement, ils reprennent les tâches pour être plus discrets.
Ouais.
Ce que je voulais relever, c'est que le carnet de voyage, il nous invite en fait à devenir curieux. On a l'impression qu'on connaît les colverts et en fait...
On les a toujours vus. C'est vrai.
Pas vraiment.
J'ai toujours vu les colverts et j'ignorais ça. J'ignore aussi la petite, parce que le macho colvert se désintéresse de ses petits. J'imagine que c'est dans plein de races d'animaux comme ça. Mais alors la femelle a un truc incroyable que vous dévoilez aussi, c'est qu'elle va feindre d'être blessée s'il y a un danger pour que le prédateur vienne à elle plutôt qu'au nid, plutôt qu'au petit.
Oui, alors ça, il y a plusieurs animaux, notamment les merles le font aussi. On a aussi énormément de merles dans notre jardin. Ici devant la cure, et c'était vraiment flagrant que quand il y a un chat qui approche, les deux, alors là c'est le couple qui fait tout pour attirer en fait l'intrus le plus loin possible des petits et du nid. Ouais.
Bon, merveilleuse.
C'est magnifique. Hein.
Merveilleuse nature partout, évidemment. Hein, mais là, pour ce qui nous occupe dans ce territoire de Lavaux, on va parler des humains un peu. Avant ça, j'aimerais qu'on parle des textes parce que je l'ai déjà dit deux fois. Vous avez choisi une formule très sobre où je viens de le dire. On apprend des petites choses comme par petites touches comme ça sous une forme très très rapide, très très ramassée. On parle de haïku par exemple, hein, de ces petits poèmes japonais où il faut débusquer un sens en quelques mots. Ça a été un travail, les textes ?
Oui, ça a été un travail. Disons, en fait, j'ai repris des idées que j'ai pu noter dans mes multitudes carnets de notes que j'ai toujours dans mes sacs et à différents endroits. Et en fait, je les ai retravaillées pour l'édition de ce livre en souhaitant d'une part donner justement des petites touches propres au lieu, en évoquant des fêtes historiques, voilà, que ce soit aussi intéressant et que ça prolonge les dessins.
La tour du château de Glérolles, hein, ça aussi j'ai appris ça, c'est génial, racontez-nous ça.
Oui, alors c'est en fait le propriétaire, maintenant je sais plus à quelle période exactement, mais en fait
Vous dites tout jeune état de Vaud, donc on est au début du 19e, quoi, quand le canton de Vaud a pris possession du
exactement,
canton.
Exactement, voilà. C'est ça. Et en fait, la tour était trop haute parce qu'elle elle faisait de l'ombrage aux vignes qui étaient juste derrière le château. Et en fait, la tour a été rabaissée pour
permettre...
Donc
c'est un vigneron, on imagine un paysan riche, hein, à l'époque, qui a pu acquérir ce château.
Ça devait être un seigneur.
Voilà, qui tirait son pain de
la
du
vigne,
vin, de la vigne, oui. Et du vin. Et il s'est dit, on va raboter un petit peu,
il y a trop d'ombre sur mes vignes derrière, donc on la rabaisse, il n'y a pas de souci. Là, il n'y avait pas trop de questions au niveau des monuments historiques.
Oui, mais ça met aussi un esprit vaudois d'humilité, finalement, par rapport à la terre. Mmh. C'est assez intéressant, puisqu'on parle d'esprit vaudois. Vous posez quelques personnages célèbres aussi qui ont parcouru et qui ont vécu dans cette région de Lavaux. Bieler, le peintre, par exemple, à Saint-Symphorin, je crois qu'il y a fini ses jours. Enfin, là aussi, je l'ai appris dans votre livre. Il y en a un qui n'est pas là.
Au Montaillier, en fait. C'était au Montaillier. Ouais.
D'accord, ouais.
Et puis là, ici, c'était Lelofio, en fait, qui a vécu ces 10 dernières années.
Une femme peintre
qui a beaucoup voyagé également. qui a créé des aquarelles notamment remarquables. Elle a une liberté au niveau du trait. Alors, elle a une vie assez mouvementée aussi, assez libertine aussi pour l'époque, je pense. Mais je me suis beaucoup, beaucoup inspirée. J'ai lu sa biographie qui est très intéressante aussi. Ouais.
Il y en a un qui n'est pas là, c'est Gilles.
Gilles,
qui est quand même l'âme de
oui,
de ce,
bien sûr,
de ce lieu.
Oui, oui. Alors, il y a un petit clin d'œil à un de ses poèmes sur Saint-Symphorin. Mais c'est sûr que Gilles est encore très présent à Saint-Symphorin par ses écrits.
Bon, c'est pas un reproche. Hein.
Non.
Vous avez fait vos choix.
Il y a une telle variété.
Vers des personnalités du monde de l'image et de la peinture. Donc, c'était pas son cas. Un dernier mot, parce qu'on arrive vraiment à la fin de cette émission. Il y a un personnage qui vous colle alors à merveille. Il est enterré pas très loin d'ici. C'est Hugo Pratt, le créateur de Corto Maltese. C'est vrai qu'en regardant vos dessins, on pourrait y poser la silhouette de Corto dans chacun d'eux. Quoi, hein. Il y a une inspiration là.
Oui, c'est aussi un peintre qui m'a beaucoup habité, en fait, que j'ai découvert en habitant là à Saint-Symphorin, en réalisant ses balades. Et en fait, également ses aquarelles très colorées, comme ça, avec un trait extrêmement rapide, m'ont beaucoup inspiré.
Voilà,
ça, c'est
Pratt, le créateur donc, de Corto Maltese, la bande dessinée culte, hein, évidemment, qui est enterré au cimetière de Grandvaux, qui a fini ses jours
avec
à Pilly,
une statue qui surplombe.
La statue de son
tout
personnage.
Tout l'avoir qui est magnifique, ouais.
Bon,
à visiter.
Ce livre est à regarder, est à déguster petit à petit. Il faut que le lecteur suive votre lenteur. Hein. Ça serait dommage sinon de le faire trop vite, Eliane Monnier. Ça s'appelle Carnet de balade en Lavaux, édition Slatkin. Merci à vous.
Merci à vous infiniment.